Père Marcel Zigrist, vous êtes assyriologue. Qu'est-ce que cela veut dire ?
Napoléon, en 1800, a fait la campagne d'Égypte et cela a produit l'égyptomania, l'énorme intérêt de tout le monde sur les pyramides, les hiéroglyphes. Vers 1850, il y a eu un mouvement un peu similaire pour découvrir la Mésopotamie, c'est-à-dire l'Irak d'aujourd'hui. Et là, on a découvert beaucoup de textes, des tablettes, des briques qui étaient inscrites. Et c'est la lecture de ces inscriptions qu'on a d'abord dû apprendre à déchiffrer comme l'Égyptien, qui a donné lieu à la science appelée assyriologie, la parole des Assyriens. Les Assyriens étant, même si les choses sont plus compliquées que je ne dis, les gens qui habitaient dans le nord de l'Irak d'aujourd'hui, c'est-à-dire, on pourrait dire aujourd'hui, Kirkouk, Mossoul. Ça, ce sont les Assyriens qui parlaient la langue assyrienne et la connaissance, la science, le déchiffrement de la culture de ces gens, c'est l'assyriologie.
Comment, Père Marcel Zigrist, êtes-vous venu à étudier, à être un assyriologue ?
Il y a peu de ma part, beaucoup de la part de mes supérieurs. J'avais été envoyé à Jérusalem après mes études de théologie pour faire de la Bible et aller plus tard en Finlande. Pendant que j'étais à Jérusalem, des pères m'ont dit « Mais pourquoi ne resterais-tu pas à Jérusalem ? Il y a aussi beaucoup de travail. » Et c'est là que le père Benoît m'avait dit « Mais pourquoi ne feriez-vous pas l'assyriologie pour remplacer le père Tournay ?»
Quelle est l'importance de ce travail pour l'étude de la Bible ?
L'importance se manifeste de plus en plus aujourd'hui. Et pour commencer, les Juifs ont été déportés à Babylone en 587 par Nabucodonosor. Ils y sont restés 50 ans et après ces 50 ans sont revenus, ont pu revenir grâce à l'édit de Cyrus, retourner à Jérusalem en Palestine. Mais ce qu'on comprend beaucoup mieux aujourd'hui, c'est que ce séjour de 50 ans n'a pas été tout simplement un moment de repos, c'était une aventure intellectuelle et spirituelle extraordinaire. Quand les Israélites sont partis, ont été déportés à Babylone, ils avaient un roi, un temple, un grand prêtre, toute une vie spirituelle organisée. Ils arrivent là-bas, ils n'ont plus rien du tout. Le roi a été enchaîné, ils n'ont plus de temple, ils n'ont plus rien. Et normalement, quand on dit cela, on dit ben, c'est la fin d'une culture. Mais dans ce cas précis, ça a été l'émergence d'une nouvelle culture. À la place du temple, à la place des sacrifices, il y a eu la loi. Et nous avons tous ces beaux psaumes sur la loi de Dieu que je médite jour et nuit. C'est à ce moment-là qu'a pris forme un nouveau judaïsme qu'on appelle judaïsme rabbinique, où des hommes, des savants, lisent la Torah, lisent les textes et les interprètent en disant aux gens comment il faut vivre selon la volonté de Dieu. Et on vit sans les sacrifices, sans le roi. Et donc, ça a été un moment crucial pour les Israélites. Et quand ils sont revenus à Jérusalem, bien sûr, ils ont reconstruit un temple, ils ont eu de nouveau des grands prêtres, mais cette nouveauté a continué de se déployer. Et ce qui reste aujourd'hui du judaïsme, c'est de nouveau pas le temple, pas les sacrifices, mais l'étude de la loi. Et pour dans le Nouveau Testament, Jésus en parle tout le temps de l'observance de la loi ou de la non-observance de la loi. Mais c'est ça le cœur du judaïsme qui s'est formé ou reformulé pendant l'exil à Babylone.
Vous êtes aussi, Père Marcel, vous êtes le directeur de l'école biblique de Jérusalem.
Oui.
Vous accueillez donc des jeunes étudiants. Que leur dites-vous pour cette matière, la syriologie?
Tout d'abord, quand c'est des étudiants qui se spécialisent dans l'Ancien Testament, je leur dirais que c'est un domaine auquel on ne peut pas échapper.
Alors ils vous disent, mais pourquoi?
Ben oui, c'est très simple, parce qu'il est vraisemblable que l'histoire du déluge, que cette histoire-là vienne de Mésopotamie. Ça finit différemment dans la Bible. Dieu fait une nouvelle alliance avec son peuple. En Mésopotamie, après le déluge, les hommes qui ont échappé au déluge nourrissent de nouveau les dieux. Donc, ça finit tout différemment, mais l'histoire en tant que telle est probablement une histoire mésopotamienne. Et il y a beaucoup de psaumes. Sont des psaumes, vous pouvez remplacer le nom de Dieu par le nom d'un Marduk ou quelque chose comme ça. Ça montre bien que c'était probablement les mêmes formules qui ont été prises, mais transformées pour le Dieu d'Israël. Quand on dit « tu es grand, tu es juste, tu es puissant ».
Alors, Père Marcel, je suis un petit peu bousculé par ce que vous venez de dire, et peut-être les auditeurs aussi, quand vous dites qu'on peut remplacer le nom du Seigneur dans les psaumes par un Dieu de Mésopotamie. Alors, qu'est-ce que notre Dieu? Notre Dieu, qui est-il?
C'est à nous de le découvrir. Il est peut-être, comment dire, il y a beaucoup de prières. Si vous prenez des prières que l'on chante au Dieu Tout-Puissant et tous ces adjectifs que l'on donne, je dirais, quel que soit le Dieu, un Dieu doit être cela. Donc on ne peut pas y échapper à la phraséologie. Mais au-delà de ces qualificatifs que l'on donne, il y a le fait que dans l'histoire biblique, il y a une épopée de ce Dieu avec les hommes. Il a marché dans l'histoire humaine. Ce que nous ne trouvons pas en Mésopotamie, il y a des dieux au ciel, et s'ils sont au ciel, c'est qu'ils sont puissants, ils sont forts et tout cela.
Ils y restent.
Et ils y restent, ils n'ont rien à faire avec l'homme. Le Dieu d'Israël, c'est un Dieu qui a fait alliance après le déluge, qui a fait alliance avec les hommes jusqu'à Jésus-Christ.
Père Marcel, quand vous regardez derrière vous, quels sont les moments, les études, les rencontres qui ont été pour vous très importantes au cours de votre parcours?
Ça va vous surprendre énormément ce que je vais raconter. J'ai lu beaucoup de livres comme tout le monde parce que c'est notre profession. Mais j'ai un livre de Marcel Gaucher. Le monsieur est mort. C'est deux, trois livres très difficiles, Épistémologie des sciences. Et ils m'ont fait énormément réfléchir pour interpréter l'homme, tout simplement. Et je le résume en quelques mots. Il voit l'homme fonctionnant à quatre plans. Au plan de la parole, l'homme est logique, logos. L'homme est ingénieux. Il fait des choses avec ses mains, il construit des ponts, des maisons. L'homme est social et l'homme est moral. Voilà donc quatre catégories, quatre plans, qui sont donc quatre niveaux sous lesquels on peut analyser l'homme, l'activité humaine. Et souvent, si vous avez ça en tête, quand quelqu'un fait des grands discours, vous dites, mais s'il avait cette idée claire, peut-être qu'il n'aurait pas dit ces choses-là. Surtout, par exemple, la distinction entre social, ce que la société fait, les lois, et le moral, qui est la norme que l'homme suit, que l'homme s'impose. Et on vous dit souvent, il y a des choses qui sont que la loi décide, mais qui ne sont pas morales, ou que moi, je n'accepte pas. La loi dit, tu peux faire ça. Moi, je dis non, là, je ne me permets pas de faire cela. Donc, c'est deux plans qu'il faut arriver à bien distinguer pour commencer à penser.
Père Marcel Sigrist, quelles sont les perspectives et les enjeux de l'école biblique de Jérusalem aujourd'hui?
Et aujourd'hui encore, le travail de comprendre les textes. C'est un travail qui ne peut pas se finir parce que nous bougeons et ce que quelqu'un a compris il y a un siècle ne signifiera plus rien pour nous parce que nous avons d'autres questions que nous nous posons. Et donc, chacun, chaque homme a un regard nouveau sur le monde et utilise les mots à sa manière et cela produira un nouveau sens. Et puis surtout, nous préparons aussi l'avenir en remodelant en quelque sorte la Bible de Jérusalem que nous avons maintenant. On va essayer de la rendre encore meilleure en quelque sorte, donner encore plus d'explications et de montrer surtout comment son sens s'est diffracté au cours des siècles.
Merci, Père Marcel.
Je vous remercie beaucoup.